Voilà, bonjour à chacun. Heureux de vous retrouver. C'est vrai que c'est que le deuxième dimanche de l'année, donc encore l'occasion de se souhaiter des vœux. Et je le fais de tout cœur. Je me suis réjoui de savoir que celui qui marche devant nous ouvre le chemin et qu'il nous précède en toutes choses, même s'il est vrai que c'est bien de se souhaiter du bonheur et beaucoup de belles choses. Mais si l'on prend au sérieux ce que dit la parole de Dieu, il y a aussi des combats. Et il y aura des combats, il y en a déjà eu certainement, et nous sommes invités aujourd'hui à mener le combat auquel le Seigneur nous invite, en sachant bien qu'il a vaincu pour nous et que cette victoire, il veut aussi nous en faire part. Alors aujourd'hui, c'est notre dernière prédication étude sur l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est la septième rencontre et précisément le thème, Éphésiens 6, versets 10 à 20, c'est le combat spirituel. Alors j'ai pensé utile de rappeler un peu ce que Paul nous a enseigné au travers de ces différentes rencontres. Je serai très bref. L'idéal, ce serait de prendre maintenant le temps de relire toute l'Épître, de réécouter toutes ces prédications. Et je vous signale que grâce à la technique et à une équipe qui est bien au travail, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, non seulement d'écouter, mais aussi d'entendre, de revoir, je veux dire, ces différents messages. Et j'ai eu le privilège d'écouter déjà le message de Daniel Arnold qu'il a prononcé dimanche passé sur le livre de Josué, la traversée de la mer du Jourdain. Et je trouve que c'est bien d'être comme ça dans le coup. Vous voyez, je n'étais pas là, mais j'ai entendu son message. J'ai pu prendre part aussi à ce qui a été dit. Donc, je vous encourage à utiliser notre site pour écouter, revoir. Et je remercie encore une fois l'équipe qui s'est mise au travail dans ce sens. Alors, je rappelle rapidement le contenu de cet épître qui nous a réellement appelés à vivre une vie nouvelle en mettant l'accent sur différents aspects. D'abord, à mener une vie digne de notre vocation en tant que membre de l'Église, qui est le corps du Christ, de manifester notre unité, l'accent est très fort dans ce livre, notre unité les uns avec les autres, unité fraternelle, tout en sachant qu'il nous a donné des dons divers et que nous sommes invités à les pratiquer dans l'Église, que nous sommes aussi invités à ne plus vivre comme les non-croyants, comme les non-chrétiens, mais à renoncer à toute forme d'impureté pour mener une vie qui honore Dieu, une vie juste et sainte. Et puis finalement, nous avons été invités à nous soumettre les uns aux autres dans les différents aspects de notre vie. Vous vous rappelez peut-être, c'était notre dernier message, « Soyez remplis à tout moment, soyez constamment, toujours à nouveau, remplis de l'Esprit ». Et un des effets du fruit de l'Esprit, alors qu'il y a la louange, la reconnaissance, l'unité, il y a l'unité, le fait d'être soumis les uns aux autres. Et cette soumission, nous sommes invités à la vivre dans le couple, dans la famille, dans son lieu de travail. Et nous avons bien compris que cela n'était possible qu'avec l'aide du Seigneur. Donc, on pourrait, dans un sens, être un peu écrasé par toutes ces exhortations, dire qui est à la hauteur, qui peut vivre cela. Et c'est certain que, comme on l'a déjà dit, on ne peut le vivre que dans la puissance du Saint-Esprit. Et il nous faut avoir constamment recours à cette présence du Christ dans nos vies, ce qui n'empêche pas, et c'est peut-être un peu l'étonnement, que cet épître se termine par cette conclusion, c'est que ça n'empêche pas que la vie chrétienne est malgré tout un combat de tous les instants. Et nous devons nous y préparer, le prendre au sérieux. Un ennemi est à l'œuvre. Et le but de cet ennemi, c'est de s'opposer à la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. Et il a mille et un moyens pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit, pour conclure sa lettre, « Menez le combat ». C'est la conclusion. Ça veut dire que tout ce qui a été dit jusque-là se termine avec cette exhortation. Je vous lis donc ce texte dans Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Je lis dans la Bible du Semeur. Il se peut que si vous avez d'autres Bibles, ce n'est pas exactement le même texte. C'est tout à fait compréhensible. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir compte jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier, priez pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture et la méditation de sa parole. Tout d'abord, il nous faut prendre conscience de la nature du combat que nous devons mener. Et dans ce sens, je relis ce verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Paul précise bien que notre combat ne nous oppose pas à des êtres humains. Il se peut que l'ennemi se serve de certaines personnes, de certaines autorités pour nous faire du tort. Mais ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons nous battre, mais contre des anges déchus, contre des démons. Et peut-être est-il bon de rappeler que quand Dieu a créé le monde, en Jésus-Christ, par sa parole, il a créé non seulement le monde visible, mais aussi le monde invisible. Il a créé des anges. Et il y a eu un coup d'État céleste. Un ennemi, l'ennemi s'est révolté contre Dieu. Et il a emmené avec lui tout un pan des anges qui se sont révoltés ensemble contre Dieu. Et qui maintenant ont un but. Étant au service de Satan, ils font tout pour s'opposer à ceux qui doivent hériter du salut. Je vous rappelle quelle était la définition des anges. Dans Hébreux 1, verset 14, vous ne l'aurez pas à l'écran, L'auteur dit « ce sont des esprits, les anges, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ». Ils sont donc des créatures, des esprits au service de Dieu pour nous aider dans notre vie chrétienne. Eh bien, les démons, ils font juste le contraire. Ils ne sont pas au service de Dieu, mais ils sont au service de Satan. Et ils ont un but principal, c'est s'opposer à ceux qui doivent hériter du salut. Et ce n'est pas pour rien qu'en tant que chrétiens, nous pouvons avoir des combats tout aussi grands, peut-être même plus, parce qu'on est devenu une cible privilégiée de l'ennemi. Et deux fois même, dans ce passage, il est question du diable. Le diable étant, au fond, le chef de toute cette armée des ténèbres. Et il nous est dit qu'il faut tenir ferme contre les ruses du diable, éteindre les flèches enflammées du diable. Voilà donc ce qu'il en est de la nature de ce combat. Peut-être que je pourrais lire ici, mais peut-être encore une chose, vous dire ces puissances contre lesquelles nous devons nous battre ont été vaincues par le Christ. Il a été élevé au-dessus de tout nom, de tout pouvoir, de toute autorité, et sa victoire, il nous la donne. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un combat à mener. Et alors ici, je cite Alfred Kuhn, qui a écrit dans « Paroles vivantes », au fond, une phrase assez longue pour décrire ce combat. Vous savez que la méthode d'Alfred Kuhn, c'est de prendre les différentes traductions possibles et les mettre l'une à côté de l'autre. Alors, c'est une version qu'on dit amplifiée. Elle est amplifiée, on met ensemble tout ce qu'on peut mettre ensemble. Mais ça donne un sens intéressant et c'est ma femme qui m'a fait lire ce texte l'autre jour et je me suis dit, tiens, peut-être est-il bon que je vous le lise. « N'avons-nous pas à lutter, donc toujours par rapport à la nature du combat, lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde ?» Contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà, vous avez là une description, elle peut être effrayante, mais d'une part, nous devons prendre au sérieux le pouvoir qu'ont ces esprits mauvais, et puis d'autre part aussi savoir que Christ les a vaincus. Alors peut-être encore quelques mots, quelques caractéristiques de ces puissances. D'abord, savoir qu'effectivement, ces puissances disposent d'un réel pouvoir. Elles ont d'ailleurs des titres qui soulignent ce pouvoir, principauté, autorité, dominateur, etc. Ce qui montre que dans ce monde des ténèbres, il y a comme une structure, une hiérarchie, il y a différents niveaux. Et puis, il est dit aussi qu'ils sont dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Donc, ils exercent un pouvoir, mais c'est des pouvoirs usurpés. En réalité, ils sont vaincus, mais ne s'avouent pas vaincus. Et ils continuent de se débattre jusqu'au moment où le Christ reviendra. Et puis, ces pouvoirs sont foncièrement, ou ces puissances sont foncièrement mauvaises. C'est le mot de ténèbres qui les qualifie le mieux. Elles ont en haine la lumière. Elles n'ont aucun code moral, ni sens de l'honneur, aucun sentiment de pitié. Au fond, il n'y a rien de bon. Tout est mauvais, méchant, et tous les moyens sont bons. Et surtout, et c'est un mot qui revient ici à plusieurs reprises, l'ennemi est rusé. C'est-à-dire, il manœuvre, il intervient de façon à nous tromper. Il n'aime pas se montrer tel qu'il est. Il se cache, il se déguise même en ange de lumière. Il faut s'en méfier, avoir un certain discernement. Il est rusé comme un serpent, et cela nous est rapporté dans la Genèse. Et il n'aime pas les confrontations directes. Au contraire, il aime les compromissions. Les compromis, faire un compromis pour trouver un chemin, ça, c'est pas mauvais. Mais les compromissions, c'est jouer justement avec, à cache-cache avec le bien et le mal, et on ne trouve pas un vrai chemin. Finalement, je crois que sa ruse par-dessus tout, c'est de faire croire aux hommes qu'ils n'existent pas, d'une part. Et nous sommes dans une société qui le redit clairement. Même dans les milieux religieux, chrétiens, finalement, certains disent « le diable, c'est une façon de parler, il n'existe pas, etc. » Ça, c'est une possibilité, mais une autre ruse de Satan, et là, on pourrait se laisser prendre, c'est de faire croire à sa toute-puissance. Il n'a rien de comparable entre le pouvoir de Satan et celle de Dieu. Dieu est infiniment au-dessus. Dieu n'est jamais dépassé. L'ennemi joue là où il peut, mais il est comme lié. Il a des limites, parce que le Seigneur lui met des limites. Et dans ce sens-là, il n'est pas tout-puissant. Dieu est tout-puissant. L'ennemi a un certain pouvoir, mais quand on est soumis à Dieu, alors on n'a rien à craindre. Alors face à ces puissances, Paul commence par deux exhortations. Puis après, il les multiplie. Vous verrez, il y a plein d'exhortations, plein d'impératifs dans ce passage. Première chose, il nous dit, puisez votre force dans le Seigneur. Il y a un lieu où nous pouvons recevoir régulièrement la force dont nous avons besoin. Il y a un puits où on peut aller s'approvisionner et recevoir la force dont nous avons besoin. Et c'est en particulier par le Saint-Esprit. Mais constamment, c'est de lui que nous recevons la force. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas seulement d'être fort, il faut encore revêtir toute l'armure de Dieu. C'est-à-dire avoir de la force, c'est bien, mais il y a comme une stratégie, il y a des armes à utiliser. Et on ne peut pas s'en passer. N'allez pas croire que parce que vous êtes fort, rempli de l'esprit, ça ira tout seul. Non, il y a des armes qu'il faut revêtir, et toutes, si nous voulons tenir ferme. Parce que seules les armes de Dieu sont efficaces. Toutes les armes que nous essayons d'employer de nos propres moyens, avec nos propres forces, avec nos idées, elles ne sont pas efficaces. Ça serait comme tirer avec un arc sur un avion, ça n'a pas de sens. Eh bien, voilà, ces armes, Dieu nous les donne et il nous promet la victoire, mais nous avons une responsabilité. Une fois de plus, ça ne va pas se faire tout seul. En tant que chrétien, nous devons être attentifs et revêtir l'armure de Dieu. Et il y a plein d'impératifs, on va les voir ensemble. C'est vrai qu'ailleurs, dans 2 Corinthiens 6, verset 7, Paul parle des armes offensives et défensives, c'est-à-dire des armes qui permettent d'attaquer, de gagner du terrain, et puis des armes au contraire qui sont données pour se défendre. Eh bien, c'est frappant, dans notre passage, il n'y a qu'une arme qui est offensive, qui permet d'attaquer, c'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Mais l'accent ici, et c'est peut-être bien qu'on s'en souvienne, il est mis sur le fait, et 4 fois cela répété, de tenir ferme et de résister. Vous voyez, ce n'est pas l'idée d'aller à la conquête, gagner des victoires, nous sommes tout puissants. Ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est tenir ferme. Tenir ferme. Résister. C'est déjà pas mal, hein, si on tient sur place, si on ne perd pas ce qui nous a été donné. Et Paul voit même qu'il s'agit donc avant tout de ne pas perdre du terrain, et il reconnaît qu'il y a des moments particulièrement difficiles. Tous les jours ne se ressemblent pas. Des fois on dit « je me suis levé du mauvais pied », c'est une façon de dire, mais c'est vrai, il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. Et c'est là qu'il faut tenir ferme. Quand ça va moins bien, quand les choses ne se passent pas comme on les a prévues et qu'on est surpris par par la maladie, par un accident, par tenir ferme malgré tout. Et puis il a aussi dit, après avoir tout surmonté. Moi, il me semble que là, il y a un aspect un peu psychologique. Les lendemains de victoire sont peut-être des moments particulièrement dangereux. Parce qu'on est content, hein? On est content, on a gagné, on a remporté une victoire. Et on est tellement content qu'on oublie que l'ennemi va profiter de ce moment. Et nous devons veiller et prendre garde. Alors, dans ces armes, il faut donc revêtir toute l'armure. Peut-être qu'il est bon de souligner qu'on n'a pas le choix. Hein. On ne peut pas dire « je prends cette arme, mais pas celle-là ». Peut-être un moment j'ai plus besoin d'une ou de l'autre, mais il s'agit de ne pas finalement s'exposer comme celui qui a été blessé au talon, hein, qui avait été trempé dans le Styx, qui avait été entièrement protégé, sauf l'endroit où on l'avait tenu pour le mettre dans le Styx qui devait le protéger. Et c'est pour ça qu'on a cette expression en français, le talon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est justement ce point faible. Et l'embêtant, c'est que l'ennemi, il sait où sont nos points faibles. Et c'est à nous de ne pas nous laisser prendre. Alors, je vais plus loin. Je vous présente ici l'image, une photo faite par Paul du soldat romain. Non, enfin, vous comprenez bien que je plaisante, mais ça doit être à peu près ça. Et Paul a été fréquemment en rapport avec les soldats. Quand il écrit cette lettre, il est enchaîné, vous l'avez lu, il est enchaîné à un soldat romain. Il a cet homme à côté de lui. Alors ça l'inspire dans ce qu'il va dire, mais il s'inspire aussi de textes de l'Ancien Testament, du prophète Ésaïe notamment, où il y a déjà ces images qui sont employées. Alors, bien sûr, c'est un langage imagé, mais qui peut nous aider, et je crois que nous allons maintenant voir ces pièces l'une après l'autre. La première pièce dont il est question, c'est de la ceinture. Et c'est vrai, vous savez, puisqu'il parlait de prison tout à l'heure, ben en prison, on nous enlève la ceinture. Parce qu'on pourrait mal l'utiliser, mais aussi parce que voilà, on est mal à l'aise, hein, on ne peut pas bien se sauver si les pantalons ne sont pas tenus. Alors c'était une ceinture en cuir, elle permettait de serrer autour du corps cette tenue qui aurait pu le gêner. C'est la ceinture dite de la vérité. La vérité, c'est cette révélation que Dieu nous a donnée dans sa parole et en Jésus-Christ. Et Jésus a dit lui-même, cette vérité nous rend libres. Je cite ce verset, Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Vous rappelez là cette question, qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, la vérité, c'est d'abord une personne, c'est Jésus, c'est sa parole. Et nous devons rester attachés à cette vérité et ne pas nous laisser détourner. Et cette vérité, eh bien, elle doit aussi se traduire dans notre manière de vivre. Vous voyez, il ne faudrait pas rien que voir les choses d'une manière spirituelle. Il faut aussi être concret. La vérité, c'est le Christ dont on se revêt, mais en même temps, c'est notre manière d'être. Nous devons être sincères, vrais, droits, intègres. Et c'est comme cela que nous pourrons faire face. Donc, voyez, c'est toujours ce double aspect spirituel, ce que Dieu nous donne, pratique dans la vie de tous les jours. Alors, la ceinture de la vérité. Ensuite, la cuirasse de la justice. C'était un élément essentiel pour la protection. Elle protège tout le corps. Elle protège tous les organes vitaux derrière, devant. Voilà. Alors, je ne vais pas vous refaire un dessin. Vous avez lu Astérix, c'est bon. Mais cette cuirasse, elle est identifiée à la justice. J'allais dire la justification, le fait que Dieu nous déclare juste en Christ. Nous pouvons revêtir la justice du Christ. Et par conséquent, l'ennemi ne peut plus nous accuser. Il n'y a dorénavant plus d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes protégés. Mais en même temps, il s'agit aussi de notre justice à nous. Nous devons vivre dans la justice, avoir ce caractère dans notre manière de vivre, de nous conduire. Et c'est aussi une façon de résister. Méfions-nous, il ne faut pas croire qu'on peut être injuste et puis que ça n'a pas de conséquences. Et ce n'est pas facile. Je vois, par exemple, dans nos familles, comment être juste avec chacun. C'est important. Vous êtes d'accord, ça a l'air de rien, mais on a plusieurs enfants et il faut être juste. Ils sont différents. Juste, ce n'est pas forcément faire exactement la même chose avec chacun, mais il y a quand même ce souci de justice. Et c'est important si on veut être protégé. Ensuite, il est question des chaussures. Tiens, c'est étonnant, ma femme m'a fait remarquer qu'aujourd'hui, on a des chaussures pour tout. Notre fils vient d'acheter des chaussures pour la course, des chaussures. C'est pas seulement les dames qui aiment leur armoire pleine de belles chaussures pour leur sortie, et il semble que ça fait pas mal, hein. Mais il y a toutes ces chaussures suivant ce que vous faites. Et il y a une chaussure ici qui est tout à fait adaptée, elle est cloutée. Et Paul dit ça, c'est une image pour parler des bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Cet élan, on a des souliers, c'est pour marcher, c'est pour aller, on a besoin de bonnes chaussures. Et spirituellement parlant, ces chaussures sont justement l'image de notre disponibilité, de notre zèle pour Dieu. Vous savez, je ne sais pas si vous le remarquez, mais moi je remarque que les vacances ne sont pas toujours les meilleures périodes au point de vue spirituel. Vous avez déjà remarqué ça? Moi je remarquais au camp d'alpinisme, par exemple, on faisait un jour d'arrêt, eh bien ce n'était pas un bon jour. Parce qu'on se laissait aller, chacun va un peu de son côté et tout, et on ne savait pas vivre comme il faut ce moment. Nous sommes appelés à être en marche avec le Seigneur, à son service. Et ces chaussures nous donnent fermeté, mais c'est lié à la proclamation de l'Évangile. Et j'ai mis ce petit point, nous sommes trop souvent des pantouflards. On aime bien au coin du feu nos pantoufles. Je me rappelle qu'avec les couples, je crois que c'était à Morges, on avait fait un petit moment comme ça de partage et j'avais demandé « qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ?» tout ça. Et puis ils ont mis pour plusieurs, ben justement, le fauteuil au coin du feu. C'est notre confort, notre bien-être, voyez. C'est bien, mais c'est peut-être pas ce qui nous est demandé. Spirituellement, il faut nous mobiliser, nous mettre en marche et rester veillant et priant. Il ne faut pas se laisser aller. Voilà ces godasses, hein, ne sont pas formides. Hein. Et puis ensuite, il est question du bouclier de la foi. Alors c'est un immense bouclier qui protège tout le corps et qui permet, comme dit Paul, d'éteindre les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que vous mettriez derrière cette idée, les traits enflammés du malin? C'est quoi? Donc si on revient dans le passé, on tirait des flèches au bout desquelles il y avait de la poix et qui était enflammée, puis on pouvait, quand on assaillait une ville, eh bien on pouvait mettre le feu aux murailles, on pouvait mettre le feu aux gens. Hein. Donc voilà. Mais pour nous, qu'est-ce que c'est? Moi, je crois que c'est tous ces petits moyens que l'ennemi emploie pour nous déstabiliser. Ça peut être une pensée de doute, une espèce de tentation à désobéir, de rébellion, de convoitise, de méchanceté, de crainte. Vous voyez, ça va tout de suite. On vous dit une mauvaise parole. La flèche, elle peut dire, bon, on en rend une, hein, pof. C'est tellement automatique. Et je crois qu'on doit se protéger de ça. On ne rend pas le mal pour le mal. On ne se laisse pas déstabiliser. La foi, elle nous donne cette solidité. On est accroché aux promesses de Dieu, à sa parole. Et on ne va pas se laisser déstabiliser par l'ennemi. Vous savez que la carte de visite de l'ennemi, c'est quoi? C'est le découragement. Tout à coup, vous êtes découragé. Il y a un truc qui vient vous arriver et puis ça vous met par terre. eh bien, il faut réagir. Il y a pas, c'est pas qu'il n'y ait pas de raison, hein, c'est pas ça. Mais c'est qu'on peut venir à Dieu et puis dire, je refuse de me laisser décourager. C'est pas parce qu'il m'arrive telle ou telle chose que je veux abandonner. Au contraire, je veux m'accrocher d'autant plus. C'est vraiment la foi, une puissance à l'heure de la tentation. Et puis ensuite, il y a le casque. Alors, c'est un casque solide, bien sûr, et qui était aussi décoratif, hein, parfois, ça les distinguait dans leurs armées. Mais c'est dit le casque du salut. Paul le dit ailleurs, il dit « mettons le casque de l'espérance du salut ». Ça veut donc dire que les têtes intelligentes se protègent, vous savez ça, hein. J'espère que vous le prenez au sérieux, quoi. Mais ici, il s'agit de protéger notre pensée, notre espérance, notre assurance du salut, c'est essentiel. Ne pas se laisser la prendre d'aucune manière. Nous sommes invités à relever la tête avec confiance, avec joie, regarder en avant. Le salut nous est assuré. Et puis finalement, vous avez l'épée de l'esprit. Je l'ai déjà dit, c'est la parole de Dieu, mais ici, de nouveau, c'est une courte épée. Ce n'est pas un très long truc pour faire de l'escrime, c'est plus court, c'est plutôt pour le combat rapproché. C'est la parole de Dieu. La parole est comparée à une épée. Et cette parole, elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant, dit l'Épître aux Hébreux. C'est-à-dire, elle permet de séparer le vrai du faux. Il faut apprendre à manier cette épée. Je crois que là, on aurait des progrès à faire. C'est une arme que Dieu met dans nos mains et que Jésus lui-même a employée. Ça m'a tellement frappé que celui qui est la parole vivante, lorsqu'il est confronté à l'ennemi, qu'est-ce qu'il va employer comme arme ? Il emploie la parole. Il est écrit. Il est écrit. Et l'ennemi essaye de faire de même, mais tord cette parole. Jésus dit, il est aussi écrit. Voyez, cette parole, elle est importante. Il nous faut la connaître. Elle est une arme dans nos mains. Elle fait reculer l'ennemi. Et le Saint-Esprit peut nous rappeler ces paroles, en mettre dans notre bouche pour faire face. Et puis, comme si ce n'était pas terminé, attention, c'est aussi à moi que je dois dire ça. Paul ajoute la prière. Or, la prière, je crois, elle est justement ce qui assure la communication. Vous savez, dans l'armée, il y a toujours les communications, hein. J'ai fait partie un temps de ces troupes-là où on met en relation, et c'est capital, hein. Vous voyez, là, ce qui est arrivé en Iran, il y a un problème de communication. Et puis, pof, c'est passé quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. C'est terrible. Eh bien, nous devons rester en relation avec Dieu, dans la prière, nous laisser conduire par lui. Et c'est bien ce que Paul dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, intercéder pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, la prière fait partie du combat. Et nos groupes de prière ont leur valeur, mais il y a aussi notre prière personnelle, il y a nos listes de prières, il y a les combats que nous menons les uns pour les autres. Et je crois que c'est bien qu'on s'en souvienne dans nos prières. Alors, je ne veux pas prolonger, sinon arriver à ce que j'appellerais la conclusion de mon côté, c'est l'importance de revêtir cette arme. Il ne s'agit pas simplement d'en faire l'inventaire. Il ne nous dit pas « apprenez à connaître cette armure ». Il dit « revêtez les armes de Dieu ». Et on s'est demandé avec ma femme, vous voyez, je l'associe souvent, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble, on a pensé que ça serait bon qu'ensemble on fasse cet exercice, dans une prière, qu'on revête cette arme. Alors, si vous êtes d'accord, ma femme va s'approcher, c'est elle qui va nous conduire. Et puis, ah oui, je devrais te donner le micro. Pourquoi pas ? Mais si. Oh, attends, il y en a un autre, oui. Ah, je vais te le tenir. Alors, pour elle, c'est un combat hein, d'être là, donc, que vous le sachiez. Hein. Elle ne m'a pas dit, j'aimerais bien faire... Non, ce n'est pas ça. Je lui ai demandé si elle était d'accord, puis elle a hésité. Non, je dis ça pour dire le combat. Vous voyez, il est toujours. Quoi que vous fassiez, il faut dire oui, il faut le vouloir. Vous sentez une voix qui vous dit, tu devrais aller le mardi soir et le mercredi. Et puis vous vous dites, c'est peut-être quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Mais voyez, il y a toujours des décisions à prendre, des combats à mener. Alors voilà, tu es là.
Mais, je souffre.
Et on va prier ensemble, je vous invite à vous lever. Parce qu'on peut faire quelques gestes aussi. Hein. On ne va pas vous passer une ceinture, un casque, etc. Mais... Alors.
Mais avant, j'aimerais dire, on a eu entendu justement revêtir l'armure, et il y a un serviteur de Dieu qui est, je dis, béni dans son ministère. Il nous avait dit quelque chose. Il a dit, moi, tous les jours, je revais l'armure. Alors, nous, on ne le fait pas tous les jours. Mais c'est vrai, dans certaines circonstances, on se sent tellement limité, tellement petit qu'on dit, on a besoin de prendre confiance, de nous remettre au Seigneur. Et on l'a lu au tout début. Moi, j'ai fait la liste pour que je n'oublie pas. Mais il vous est dit...
Comme ça, tu n'auras pas de peur.
Ah, ben, il est dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et c'est d'abord la première chose qu'on peut dire. Seigneur, aujourd'hui, je puise mes forces en toi. Je revais l'armure que tu nous demandes de revêtir.
Alors, on entre dans la prière.
Alors maintenant, on entre dans la prière. Et je dis, Seigneur, je suis devant toi. Je puise mes forces en toi et je me réjouis parce que tu es vainqueur. Et je mets la ceinture de la vérité.
Oui, Seigneur.
Seigneur, c'est toi qui es la vérité. Je me revais de toi. Mais je veux que dans ma vie aussi, dans mes paroles, il y ait la vérité. Que rien ne vienne faire obstacle. Oui. À cette vérité dans laquelle je veux être. Et je remets la cuirasse de la justice. Tu as payé, Seigneur Jésus, pour me rendre juste devant le Père. Alors je revais cette cuirasse de la justice, qui me protège. Je revais ta justice, Seigneur Jésus. Et puis, il y a les chaussures du zèle. Seigneur, je ne veux pas être pantouflard. Je sais que tu m'appelles à ton service. Je veux être renouvelée dans mon zèle pour toi, pour communiquer la bonne nouvelle, pour bénir en ton nom. Alors, je mets les ailes, je mets les chaussures pour être pleine de zèle, pour aussi être ferme dans ce que je désire vivre et apporter. Et puis, il y a le bouclier de la foi. Je revais, je prends ce bouclier de la foi pour éteindre toutes ces paroles mauvaises, ces attitudes, ces choses négatives de la vie qui me heurtent. Seigneur, je revais ce bouclier de la foi parce que c'est toi qui me protèges. C'est toi qui as payé, c'est toi qui es avec moi. Alors, le bouclier de la foi, qui est ce Dieu qui me protège, je le saisis et je le bénis. Et puis, il y a le casque du salut. Alors, garde mes pensées en toi, Seigneur. Je te soumets mes pensées. Je te demande pardon parce que ça va des fois dans tous les sens. Mais Seigneur, mes pensées, je les veux dignes de toi. Pardonne, purifie. Mais je revais et je te soumets ces pensées pour qu'elles soient selon toi, agréables à toi et que je puisse agir en ton nom. Et puis, il y a ta parole, Seigneur, tu nous l'as donnée comme épée. Alors je me réjouis de savoir quelle est la vérité aussi et que je peux la manier. Et si l'ennemi m'embête ou me donne des doutes, Seigneur, tu dis dans ta parole, et c'est la vérité, tu dis, je fais confiance, tu es mon bouclier. Et je peux, dans le nom de Jésus, parce que je t'appartiens en entier et que tu habites en moi, je peux dire non à l'ennemi. Et je sais, Seigneur, que ta parole dit que tu es ce Dieu qui me protège, qui combat pour moi. Alors je me réjouis, Seigneur, de ce que tu fais en moi, avec moi, par moi. Seigneur, sois loué de tout mon cœur. Sois béni, Seigneur. Et je te loue de tout mon cœur de savoir que tu nous entends, que tu m'entends. Que Seigneur, c'est toi qui m'aide et qui marche devant moi et qui me donne la victoire aussi contre les puissances, contre l'ennemi, parce que tu es au-dessus de tout. Alors je te loue de tout mon cœur, Seigneur, pour qui tu es, de t'appartenir, de t'avoir comme sauveur, comme Seigneur. Puis je pourrais encore en ajouter. Oui. Seigneur, sois remercié. Voilà. Un essai devant vous.
J'ai l'impression que ma femme serait encore plus longue que moi. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si ça vous encourage, mais j'aimerais que ça vous encourage. Il ne s'agit pas de fermer les yeux. C'est vrai, ce n'est pas facile de vivre notre vie chrétienne. C'est un combat, c'est vrai. Mais Christ est vainqueur et il nous donne et la force et les armes nécessaires. Alors allez dans sa victoire. Restez ferme, tenez ferme, comme Paul le dit. Amen.